François Touchard, Benjamin Moreau, bonjour.
J'ai bien dit François Touchard, hein, je ne me suis pas trompé, hein. Si vous avez entendu bafouiller, c'est que c'était pas moi. Remarquez, je suis de bon poil, vous pouvez dire que je bafouille à la limite, c'est parfois un peu vrai. Là, je vais essayer d'être très clair, car c'est parti pour cet espace associatif qui va nous conduire jusqu'à midi et qui fera en sorte que, par exemple, si vous représentez une association, tout à l'heure, entre 11h et 11h30, vous pourrez nous appeler et parler de votre actualité, de la manifestation que vous organisez dans l'instant. C'est simple, hein, 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. Je répète ce numéro de téléphone car il peut vous être utile si vous voulez poser des questions à nos invités. Nos invités, ce sont Olivier Bichet et Christian Lefebvre qui représentent la Fédération française de roller football. Si vous voulez leur poser des questions donc, 01 56 88 40 20. C'est parti, jusqu'à 11h, la vie des associations. Belle matinée. La vie des associations est aujourd'hui consacrée à la Fédération française de roller football. Mais je sais que Olivier Bichet, qui la représente en tant que porte-parole, on va dire, hein, dans l'instant, puisque Christian Lefebvre, lui, est le président, mais président silencieux, je sais que Olivier Bichet va remettre les choses dans l'ordre, parce que vous le disiez à l'instant, quand on parle de roller football, on pense forcément au roller et au football. Et c'est pas tout à fait ce à quoi il faut penser. Bonjour Christian, Olivier, pardon, tout d'abord.
Bonjour Benjamin.
Alors, on va quand même expliquer, dans un premier temps, ce qu'est le roller football, même si on n'en parlera que très peu au cours de cette émission.
D'accord. Donc, en deux mots, effectivement, la connotation sportive du mot roller football nous fait associer logiquement deux mots, le mot football et le mot roller. Et ce qui est, c'est logique et humain que l'on comprenne à première vue que c'est effectivement un sport. Sauf que l'aspect sportif nous a un petit peu desservi au début de cette aventure, qui est née en 2004, année européenne de l'éducation par le sport. Et de plus en plus, on adapte notre discours en fonction de l'interlocuteur. Et donc, on emploie aujourd'hui le jeu du respect et de la citoyenneté. Alors qu'avec les enfants, on va davantage leur parler du roller football, qui a une porte d'entrée qui les accroche plus facilement.
C'est ça, tout dépend à qui on s'adresse. Si on parle aux gamins, bah bien sûr, on va plus parler de roller football, même si après on leur fait comprendre qu'il s'agit bien du jeu du respect et de la citoyenneté. Mais si on va vers les hommes politiques, on va d'abord leur parler du jeu du respect et de la citoyenneté, et puis accessoirement, on va leur dire, ça s'appelle le roller football. J'ai bien compris ?
Exactement. Donc, une petite anecdote pour bien comprendre l'état d'esprit et la philosophie de ce projet socio-éducatif. C'était il y a deux ans, un peu plus, même trois ans, je crois maintenant, une petite élève de cinquième en SECPA, dans section enseignement général et professionnel adapté, sur des enfants de collège à difficulté, en décrochage scolaire, à qui on a proposé ce projet il y a quelques années. Et un journaliste avait interviewé cette petite Aude en lui demandant c'est quoi le roller football. Elle lui répond, bah, c'est pas du foot en roller. Donc, réponse très surprenante pour le journaliste, oui. Gros plan sur la jeune fille. Oui. Et elle dit avec ses mots, elle, entre nous, on se parle méchamment. À force de faire du roller football, on se parle plus gentiment, on est plus copains. Voilà sa définition à elle du roller football.
Elle avait tout compris.
Complètement. Elle avait compris la définition, l'esprit. Elle a pas dit c'est marquer des buts, elle a pas dit c'est gagner des matchs. Et donc ce jeu, il y a toute une philosophie particulière, il y a toute une sémantique particulière. Et ce jeu, c'est un support, c'est un moyen, c'est une porte d'entrée pour travailler des valeurs sociétales importantes.
Et à ce que j'entends dans votre bouche, vous qui êtes passionné de ça, c'est un super support même, je dirais.
Mais donc ça plaît aux enfants, ne serait-ce que par rapport aux mots, parce que même si après ils arrivent à dire que c'est pas du foot en roller, ils rentrent dans l'activité par rapport à cette connotation sportive. Ensuite, ils se rendent bien compte. J'ai aussi un éducateur en formation, puisque je fais des formations pour des BPJEPS, des brevets d'État, d'éducateurs de quartier. J'ai eu enfin un éducateur en formation qui m'a dit, en fait, vous appâtez pour éduquer. Donc c'est son raccourci à lui, c'est un jeune éducateur de 18 ans. Effectivement, c'est une sorte d'appât, c'est une porte d'entrée pour faire de l'éducation et pas pour faire uniquement du sport.
Mais c'est quand même au départ du foot en roller.
Effectivement, on peut dire ça comme ça. C'est un jeu d'équipe sur un terrain de 40-20, c'est un terrain de handball qui se joue à 4 contre 4 avec un gardien de but, donc 5 contre 5. Il n'y a pas d'arbitre. Il y a plein de petits détails comme ça qui font que les enfants sont en situation d'autonomie, de responsabilité. Il y a une communication qui est imposée par rapport au règlement spécifique.
Vous avez déjà répondu en partie à la question que je ne vous ai pas encore posée, mais que je vais vous poser maintenant. Pourquoi est-ce qu'on peut faire de ce roller football un vrai beau support pour enseigner le respect, la citoyenneté aux gamins, et qu'on ne peut pas le faire, par exemple, avec des sports plus connus, plus tendance, hein, comme le foot, comme le rugby, pourquoi pas, comme d'autres sports collectifs?
Alors, c'est une très très bonne question. Et donc, là, c'est à la fois l'enseignant qui va vous répondre et l'ancien sportif. Effectivement, n'importe quelle discipline sportive peut être éducative. J'insiste sur le peut, parce que toutes les dérives qu'on en montre aujourd'hui, qui sont médiatisées, effectivement, c'est beaucoup plus vendeur de parler d'un vilain geste dans une discipline sportive qu'un beau geste et qu'un beau résultat. Donc le sport, heureusement, reste éducatif, mais les dérives que l'on montre et qu'on médiatise, pour les enfants, la vérité, c'est la télé, c'est la presse. Ils ont beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à ça. Dans ce jeu, on a voulu imposer des règles. Dès l'instant où ils appliquent le règlement, qui est spécifique, on pourra en parler un petit peu, dès l'instant où ils l'appliquent, forcément, ils sont respectueux, forcément, ils travaillent la citoyenneté, on pourra le voir en détail ensuite.
C'est ça. La façon dont on y joue fait qu'à partir d'un certain moment, à partir du moment où on a inclus ce règlement-là, on est forcément dans le domaine du respect de l'autre.
De toute façon, c'est incontournable. On peut pas jouer au roller football sans être respectueux.
Ouais,
on peut malheureusement faire un autre sport sans l'être.
Mais ça ne tient donc pas forcément au matériel, ça ne tient pas au fait que ça se joue avec un ballon ou au fait que ça se joue d'une façon ou d'une... Enfin, ça tient à la façon dont ça a été enseigné.
Complètement, c'est la forme qui compte, le fond c'est la matière, c'est les ingrédients, et après c'est le cuisinier, c'est l'éducateur qui va faire en sorte que la recette va être faite d'une certaine façon avec certains ingrédients.
Et ça tient aussi peut-être à une chose, entre autres, pas uniquement à celle-là, mais vous le disiez tout à l'heure, ça m'a frappé, il n'y a pas d'arbitre.
Non, il n'y a pas d'arbitre, donc ça surprend beaucoup de gens, mais l'exemple que je prends à chaque fois, les enfants dans les cités, en bas de chez eux, ils jouent au foot du matin au soir, dès qu'il y a des vacances scolaires, le week-end, et comment ils font sans arbitre? Ils discutent, ils échangent, ils s'engueulent, peut-être qu'ils se tapent dessus, mais au bout du compte, ils jouent du matin au soir en prenant des décisions.
Si vous le voulez bien, on va pas se taper dessus, hein,
c'est
trop bête. Hein, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler du roller football et de sa philosophie. Si vous voulez nous rejoindre, poser des questions à Olivier Bichet, rien ne vous empêche, voire tout vous incite à nous appeler au 01 56 88 40 20. Olivier Bichet nous a rejoint pour représenter la Fédération française de roller football. Alors Olivier, on a parlé déjà de ce sport qui n'est pas un sport comme les autres parce que il véhicule des vraies valeurs. J'allais dire que tout sport devrait véhiculer, mais ça c'est encore un autre aspect qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer. Mais moi je voudrais connaître justement les différences essentielles qui font justement que ce roller football véhicule les valeurs dont on parlait tout à l'heure.
Donc, des petits exemples, effectivement, Benjamin, chaque rencontre, et non pas match, on s'interdit quasiment d'employer le mot match. Ouais. Les élèves nous le font remarquer lorsqu'ils nous échappent.
Ouais. Parce que match, c'est déjà, il y a une compétition qui signifie qu'on va être prêt plus facilement à marcher sur l'autre plutôt qu'à penser que l'autre, il existe aussi et puis qu'on peut jouer ensemble.
Bah, effectivement, si je m'appuie sur la définition de la jeune fille que j'ai citée tout à l'heure, l'objectif est de créer du lien social, de jouer ensemble, de partager un moment, et de s'en servir comme support éducatif, il n'est pas forcément de gagner. Effectivement, c'est toujours plus agréable de gagner en même temps, mais l'esprit de la rencontre, du jeu, compte davantage.
Oui, et puis on peut gagner en étant régulier, j'allais dire. Et...
Complètement, puisqu'en parallèle de ces rencontres, lorsqu'on fait des tournois U16 dans le cadre scolaire, par exemple, en parallèle, il y a ce qu'on appelle le trophée multi-win. C'est un trophée que l'on remet à la fin des rencontres, pour valoriser un comportement irréprochable. C'est-à-dire qu'il y a un comptage de points qui est particulier. Systématiquement, à la fin de chaque rencontre, on additionne score de jeu et score de comportement.
Ah oui.
Donc ça, ils le voient en mathématiques, par exemple, en plus de ce qui est fait en EPS. En français, ils vont travailler la lecture et l'écriture à partir d'un support de roller football. En technologie, ils vont travailler le montage des montages du roller sur des supports en 3D. En anglais, un exemple, l'année dernière, ils vont travailler « I must, I mustn't », bon, « je ne dois pas », dans le règlement du jeu, par extension, dans le règlement intérieur du collège, et puis par extension encore, en tant que citoyen, tous les jours.
Vous avez fait de ce roller football un élément très complet d'éducation, hein?
Exactement, hein? Et donc notre plus grand défenseur aujourd'hui, je ne me cache pas pour le citer, parce que j'espère qu'il nous écoute, c'est Philippe Mérieux, éminent professeur des sciences de l'éducation, qui était donc président du prix Innovation Éducative 2008, qui nous a remis ce prix au mois de novembre, et qui fait partie des personnes qui nous encouragent de ne surtout pas baisser les bras, puisqu'aujourd'hui, il y a un vrai paradoxe entre un projet qui provoque de nombreuses manifestations d'intérêt, avec de nombreuses demandes, et puis des demandes auxquelles on ne peut pas répondre.
Alors, je voudrais qu'on revienne à ces différences. Mm-hmm. Donc, rencontre, pas match, hein, déjà. Donc, ça, c'est important.
Complètement. Dès le début, le médiateur, qui est une sorte de capitaine d'équipe, qui change à chaque rencontre, donc qui représente l'équipe, et qui est l'intermédiaire entre ses amis, ses partenaires, les adversaires, même si c'est un mot que j'aime pas employer, et l'arbitre qui est extérieur, qu'on appelle un référent, qui est un petit peu le regard institutionnel, qui regarde si tout le règlement est appliqué correctement. Donc ce serment de bonne conduite, sans être démago, c'est un engagement moral en début de rencontre, Et dès l'instant où il y a un petit souci, c'est facile de revenir dessus pédagogiquement pour montrer que ce qui a été dit au début n'est pas appliqué ensuite.
Ouais, on voit mal des footballeurs au Parc des Princes, hein, le PSG et Marseille, signant une charte de bonne conduite. On le sent pas, ça, hein, c'est vrai. Bon, bah, je sais pas, je dis ça
là,
comme ça.
Là, j'ai un petit parallèle, puisque vous me lancez une perche. Le monde du football classique s'est inspiré de notre projet pour des enfants, donc là, des poussins Benjamin, sur un tournoi international au Kremlin-Bicêtre dans le 94. Le principe était que le serment de bonne conduite a été traduit en serment d'avant-match et était lu systématiquement avant chaque rencontre dans la langue du capitaine adverse. J'avais des Italiens qui lisaient en roumain, des Roumains en français, et les gamins ont bien compris la symbolique de cette petite phrase qu'il fallait donner en début de rencontre pour souhaiter la bienvenue, et ça s'est très très bien passé.
Oui, puis ça a l'air gadget, mais vous le disiez, le capitaine qui est nommé au début de chaque rencontre, ça veut dire que là encore, le capitaine, il n'a pas un statut de star, c'est pas quelqu'un qui dirige, et tout un chaque, enfin je veux dire, à chaque fois, c'est une personne différente, un enfant différent, c'est important ça aussi.
À chaque rencontre, les rôles changent, donc le médiateur, qui donc lit ce serment de bonne conduite, qui est l'intermédiaire entre le référent et les joueurs. Et autre exemple, autre petit détail du règlement, le langage fait aussi partie des fautes. Donc forcément, éducativement parlant, dès qu'il y a un petit nom d'oiseau qui vole, ça fait partie des fautes. Bah, et ça,
les serment... oiseaux peuvent voler, mais pas les noms d'oiseaux.
Voilà, exactement.
D'accord. D'autres différences qui font que finalement, une petite différence plus une petite différence, bah, j'allais dire, ça fait une grosse différence, quoi.
Effectivement, autre exemple, bousculer un camarade de jeu, un adversaire, c'est possible, ça peut arriver. Dès l'instant où je m'excuse, j'arrête le jeu, je lui rends le ballon, il n'y a pas faute. Par contre, si le jeu continue, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si la faute est faite exprès ou pas exprès. Dès l'instant où je m'excuse, le jeu reprend et là, il n'y a pas de faute. Le référent qui, lui, est à l'extérieur, il a une petite table qu'on appelle la table du référent et il visualise les fautes par des codes couleurs. Un exemple, les rouges jouent contre les verts, il pose sur sa table des petits plots, et à chaque fois qu'il y a une mauvaise interprétation du règlement, il pose un plot qu'on appelle un top, et au bout de 3 tops, il dit stop, et il explique chronologiquement les erreurs. Donc là, la pédagogie intervient dans cette deuxième phase.
Mais le référent, quelle est la différence entre le référent et l'arbitre?
Donc un arbitre classique, quelle que soit la discipline, va représenter l'autorité et va sans doute hacher le rythme du jeu en disant, voilà, moi j'ai raison, toi tu as tort, oui, tu as 2 minutes, ça. Tu as un carton jaune, etc. Là, on les laisse volontairement en situation de réflexion, d'autonomie, de prise de décision, et ils doivent communiquer et appliquer le règlement qu'ils ont lu initialement.
Olivier Bichet est avec nous. Il représente la Fédération française de roller football, bien évidemment, hein. Si vous voulez arriver jusqu'à nous, pour nous joindre, un numéro de téléphone, le 01 56 88 40 20. Aujourd'hui, Olivier Bichet est avec nous, qui représente la Fédération française de roller football. Moi, je voudrais bien savoir, et je suis pas seul d'ailleurs, parce que des auditeurs ont déjà téléphoné dans ce sens, où on peut jouer au roller football.
Alors, c'est une très très bonne question, puisque on n'a pas une logique fédérale en tant que telle pour développer un sport de compétition de façon très très étendue sur le territoire. C'est pas ça notre enjeu. On n'a pas non plus la prétention d'avoir inventé un projet miracle. Juste cette éducation, cette action socio-éducative qui a fonctionné sur un pôle, sur un site, on voudrait la développer un petit peu ailleurs. Donc aujourd'hui, elle existe concrètement sur 2 établissements de SACPA en Ile-de-France. Et depuis ce prix Innovation Éducative 2008, donc c'est un petit peu la rançon du succès ou les paradoxes qui ont grossi, puisqu'on a de plus en plus de demandes qui sont générées par ce prix. J'ai une 20aine d'établissements scolaires qui m'ont fait des demandes officielles en France et en DOM-TOM pour des élèves qui ont les mêmes caractéristiques, qui sont en décrochage scolaire, qui ont quelques soucis et qui voudraient programmer cette activité. Sauf qu'aujourd'hui, bah, je fais un petit peu une réponse de Normand. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui parce que j'ai pas les moyens de répondre à leurs attentes.
Ouais. Quand vous dites que vous n'avez pas les moyens, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas les moyens. Moi, vous me disiez hors antenne, les politiques sont tous d'accord. Et ils sont d'accord, ils ont vu le projet, ils le comprennent. Pour certains, ils ont certainement vu même des marmots jouer au roller football. Ça les incite à penser que on va dans la bonne direction, mais seulement en ce qui concerne les pépettes. Ouais, quoi. Ça vient pas.
Exactement ça. On a eu beaucoup de lettres d'encouragement. Donc, ça fait une jolie collection aujourd'hui.
Magnifique.
Donc, c'est toujours, toujours agréable. Ça fait plaisir. Ça encourage. Ça nourrit les convictions, on va dire. Mais au quotidien, c'est pas si simple que ça. Au jour d'aujourd'hui, en début 2009, il y a essentiellement le pôle de la ville avec la DIV, délégation interministérielle à la ville, avec le secrétariat d'État à la ville de Madame Fadel Amara et l'accès à l'Agence nationale de cohésion sociale, égalité des chances, qui a compris et qui encourage cette expérience en finançant la moitié d'un poste d'enseignant pour développer, pour mutualiser ce projet sur le territoire. Sauf que cette première moitié, sans son complément, ne sert à rien.
Eh ben oui, ça fait qu'une moitié, et puis voilà, on vit pas avec une moitié de salaire, c'est pas trop facile, quoi. Ça veut dire que là, en ce moment, vous donnez beaucoup pour faire en sorte que le roller football finisse par avoir ses vraies lettres de noblesse, qu'on le reconnaisse. Et puis, bah, pour l'instant, c'est vous qui faites les plus gros efforts, quoi, en fait.
Bah voilà, qu'on mette les paroles en acte. Donc, on a de jolis courriers, de nombreuses belles paroles. On voudrait juste que ces paroles se traduisent par au moins le demi-poste qui nous manque pour pouvoir clôturer le budget et répondre aux attentes qui sont scolaires et extrascolaires. Donc, on a parlé de déclinaison tout à l'heure. Ce projet qui est né dans la cour de récréation, qui est né dans l'éducation nationale, a été décliné dans de nombreux ministères. À titre d'exemple, Jeunesse et Sport organise des brevets d'État, ce qu'on appelle BPJEPS, pour former de nouveaux éducateurs de quartier, centres sociaux, MJC, etc. Parmi les formations que j'ai pu organiser, j'ai une éducatrice de Franche-Comté, Nadia Akasbi, pour pas la citer, qui a bien accroché sur le projet et qui, une fois rentrée dans sa structure centre social, a décidé d'organiser une grande journée sur le respect, avec deux régions présentes, plusieurs départements. Le fil rouge de la journée, c'était le respect, avec de nombreux partenaires. On a travaillé avec la BPDJ, c'est Brigade Prévention Délinquance Juvénile, c'est la gendarmerie, qui attend qu'une seule chose, c'est qu'on puisse retravailler ensemble, en Franche-Comté ou ailleurs. Et donc, toutes ces choses-là se font en plus de mon temps occupé et mon service actuel. Donc, c'est un petit peu problématique pour tout le monde, parce qu'on n'avance pas avec des compromis. Et le problème fait que...
Et puis on peut pas faire les choses à moitié, quoi, voilà.
C'est ça.
Vous n'êtes forcé de vous tenir qu'à moitié, et ce n'est pas votre faute, c'est parce que vous avez d'autres obligations.
C'est ça, j'ai mon rôle d'enseignant à tenir au quotidien, ce qui est normal. Et à côté de ça, il y a un décret interministériel qui m'autorise à être détaché pour le développer dans d'autres ministères, sauf qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui.
Hein, quel rôle on peut avoir, nous, les auditeurs, nous, les personnes qui vous entendons en ce moment? Mais quand même, on sent que le projet est porteur, on voit bien, on va continuer certainement, bien sûr, on aura le temps de le faire, à parler des différences, en parler de ce sport qui met enfin en tête, ce qui, ça n'aurait jamais dû cesser d'être, mais ça a cessé quand même un petit peu, la citoyenneté, le respect. Comment on peut faire, nous, pour vous aider à porter le projet plus loin, plus haut? Plus fort, comme aurait dit un certain Coubertin.
Bah effectivement, vous me lancez une nouvelle perche sur Coubertin. En vieux français, l'origine du mot sport, c'est le mot desport. Et la définition desport, ça veut dire jeu et amusement. Le jeu, par définition, est éducatif. Le sport peut ne plus l'être. J'insiste sur le peut. Effectivement, chaque éducateur, chaque entraîneur de quartier, de club, font du très très bon travail d'éducation, de citoyenneté, de respect. J'ai aucun souci, aucun doute là-dessus. Simplement, le haut niveau et le sport de compétition changent un petit peu la donne. Donc, je suis très content d'être invité sur votre antenne aujourd'hui.
Et on est content de vous inviter, nous également.
Donc, c'est très gentil de me recevoir. Effectivement, c'est une occasion pour nous de mettre un petit peu le doigt où ça fait mal et expliquer que bah, là, il y a un vrai souci. On nous fait croire partout que l'interministérialité va tout régler. Alors, c'est un très joli mot. Simplement, les ministères n'ont pas forcément envie et l'occasion de bosser ensemble. Là, on a un projet qui est déclinable et qui, sans prétention, à marcher sur un site, on voudrait le développer ailleurs.
Puis pas envie, pas la possibilité de discuter, de travailler ensemble, et puis aussi de mutualiser les moyens, puisqu'en ce moment, on va plutôt à l'économie dans tous les sens. Donc ça aussi, il y a un problème de ce côté-là. En revanche, en ce qui nous concerne, nous, il n'y a pas de problème pour nous joindre. Hein. Vous avez un numéro de téléphone, à cet effet, qui est le 01 56 88 40 20. Nous recevons la Fédération Française de Roller Football, dont le porte-voix est aujourd'hui Olivier Bichet. Alors Olivier, j'ai bien compris, le bataillon essentiel, le gros du bataillon, bien que bataillon, ça ne doit pas être un mot que vous estimez beaucoup, de la troupe, hein, de ceux qui jouent au roller football, ce sont des enfants en difficulté scolaire, en décrochage scolaire, comme vous aimez à dire.
Voilà, c'est pas spécifique pour ces enfants-là, simplement au bout de 4-5 années d'expérience et d'empirisme, c'est avec ces enfants-là qu'on a eu de meilleurs résultats. En termes d'indicateurs, ce qui a été mis en avant, absentéisme quasiment zéro pour ces enfants qui sont en décrochage scolaire et qui ont des gros problèmes d'assiduité. Deuxième indicateur essentiel, changement significatif de comportement dans les disciplines où l'enseignant est investi sur le projet. Il y a la notion de sens qui intervient, c'est-à-dire que les enfants, ça prend du sens pour eux de voir des adultes travailler sur un projet commun. Et puis ces enfants-là qui sont un petit peu stigmatisés souvent au sein du collège sont remotivés, l'estime de soi c'est important pour eux et on leur fait confiance et c'est un échange qui est très très riche.
Oui,
et
puis encore une fois, quand on parle au collège, quand on parle de ceux qui font du foot par exemple, pour ne parler que de foot, bon bah ils sont assez facilement stigmatisés, à la fois ils sont un peu dans la tendance, dans la mode, et puis à la fois par certains autres, ils jouent au foot quoi, bon voilà quoi.
Effectivement, au bout de quelques années, au début, c'était un petit peu montré du doigt. C'était quoi ces enfants déjà qui étaient montrés du doigt initialement et qui maintenant des rollers au pied avec un jeu de ballon. Sauf qu'au bout de 3-4 ans, tout le monde voudrait être à leur place. Donc on le fait avec ces classes-là. Cette année, sur Bonneuil-sur-Marne, au collège Paul-Éluard, on le fait avec des 6e, 5e tous les lundis après-midi. Et ils sont effectivement un petit peu jalousés maintenant parce qu'il y en a un petit peu plus qui voudraient participer.
Alors tout à l'heure, je vous entendais dire qu'il y avait une petite fille qui avait sa définition bien à elle du roller football. Est-ce que ça sous-entend que les équipes sont mixtes ?
C'est une très bonne question, j'ai oublié de le signaler. Les équipes sont obligatoirement mixtes. On ne peut pas jouer s'il n'y a pas de filles. Bon, on s'arrange quand le cas se présente. Simplement, dans la plupart des cas, les classes sont mixtes et les équipes sont forcément mixtes. Et petite remarque, les filles sont beaucoup plus en réussite plus tôt que les garçons. Les garçons ont une motricité de footballeur, entre guillemets, et ils se rendent compte qu'avec un média entre les pieds et le sol qui est les rollers, c'est pas aussi simple que ça. Les filles ont plus en un jeu en
plus
touché.
De finesse, plus en.
Au début, ça commence comme ça. Ce qui ne plaît pas forcément aux garçons, que les filles réussissent plus tôt. Mais une fois de plus, pédagogiquement, c'est intéressant parce que ça fait travailler l'ego et il y a des résultats assez drôles.
Une équipe, elle est constituée de combien d'enfants ?
Donc, il y a 4 enfants sur le terrain plus un gardien dans les buts. Donc, 5-5. Et puis les changements se font au rythme du jeu, comme ils veulent, ils doivent s'organiser.
On essaie évidemment de faire en sorte qu'il y ait la parité, là encore,
Exactement. Il faut toujours qu'il y ait une fille au moins sur le terrain. Donc c'est vrai que les enfants ne savent pas, il y a essentiellement des garçons, majoritairement des garçons, je veux dire. Donc on s'arrange pour que ce soit mixte du début à la fin. Et cette mixité ne pose aucun problème.
Maintenant, il va falloir faire avancer le projet.
Bah disons qu'on a beaucoup de propositions, d'idées en tête et puis dans les tiroirs. Titre d'exemple, on a une émission de télé qui nous est proposée sur la TNT Île-de-France, mais c'est aussi du travail et ça demande aussi beaucoup de temps. Donc on n'y renonce pas, on espère s'en occuper dès que possible pour médiatiser et valoriser un peu plus les avancées de ces enfants.
Est-ce qu'on peut envisager que des enfants handicapés fassent partie d'équipes de personnes qui enfin d'enfants qui jouent au roller football?
Donc justement, par rapport à cette notion d'handicap, initialement, pourquoi j'ai choisi ces enfants de SECPA ? Premièrement, parce que c'est un public que je connaissais assez bien pour avoir travaillé pendant 8 ans avec eux. Ces enfants sont dans des classes très très hétérogènes au niveau moteur, au niveau social, au niveau psychologique, au niveau des multiples problèmes qu'ils ont et qu'ils cumulent, font que ce décrochage scolaire, il est quasiment inévitable. Donc ces enfants, il faut innover, il faut créer, il faut inventer des contenus, il faut les remotiver. Et c'était effectivement la caractéristique la plus adéquate pour ce jeu. Maintenant, par rapport au milieu du handicap, j'ai eu il y a un an et demi sur une formation des élèves de SECPA également, mais de notre région, Franche-Comté. Et on avait un petit garçon d'une dizaine d'années qui était handicapé du côté droite. Donc il avait sa jambe droite qui traînait un petit peu, très difficile pour lui. Par contre, il s'équipait comme tout le monde avec les protections, avec les rollers. Il avait forcément un seuil de fatigabilité qui était beaucoup plus rapide que les autres. Simplement, il a pu participer avec ses moyens, à son niveau à lui. Et lorsqu'il a été fatigué, il a pris le rôle de référent à l'extérieur. Et ça n'a posé aucun souci. Son handicap moteur n'a pas été un obstacle à la pratique.
Oui, on peut imaginer qu'effectivement, dans un jeu comme le roller football, il y a de la place pour tout le monde. Comme vous dites, si par exemple, quelqu'un est forcé de quitter le terrain, il y a combien de remplaçants possible?
Donc c'est pas défini, forcément moins il y en a, plus ils peuvent jouer en théorie.
Bien sûr.
Donc après on adapte suivant les caractéristiques, suivant le nombre d'élèves, on s'arrange.
Et puis visiblement au travers de ce que vous me dites, il y a peut-être moins de blessés, moins de coups bas.
Mais donc les contacts sont interdits, donc les contacts, je dis pas qu'ils sont inexistants, mais dès l'instant où il y a un contact maladroit, volontaire ou pas volontaire, peu importe, si l'enfant arrête le jeu et reconnaît ce contact, le jeu continue. S'il ne reconnaît pas, bon, le référent extérieur met un petit plot de couleur. On y revient quelques minutes après pour expliquer les incidences et les conséquences de cette faute non reconnue.
Et puis évidemment, ça va agir sur la note finale, puisque vous le disiez, les enfants sont notés en quelque sorte.
Mais disons qu'à chaque fin de rencontre, on additionne systématiquement le score de jeu et le score de comportement. Par définition, l'équipe qui a eu le moins de top, donc de moins de petits plots de couleur de son équipe, c'est l'équipe la plus fair play, c'est l'équipe qui a le mieux appliqué le règlement. Donc cette équipe, on lui offre un but en plus. Donc c'est pas négligeable. Et donc c'est une sorte d'addition à étage à un chiffre. Et on ajoute donc un but à l'équipe qui l'a plus fair play et ça intègre le score final de la rencontre.
Olivier Bichet est avec nous. On le retrouve dans quelques notes de musique. Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie d'Olivier Bichet qui vient nous parler de roller football, de la Fédération française de roller football et de ses manques, enfin des... Et comment dirais-je? Et du blocage qui fait que pour l'instant, il n'en est que là où il en est, alors que vous avez des idées, vous avez des envies.
Voilà, on va dire blocage, on va l'appeler, pour donner une image, un blocage politico-administratif, un paradoxe.
Et dedans, ça fait beaucoup, ça, politico-administratif.
Moi, je trouve ça joli, ça sonne bien.
Oui, c'est joli, mais on sent aussi que le trou dans lequel vous êtes embourbé, il est joli aussi, hein. On dirait, enfin, je sais pas.
Il n'est pas spécifique à l'association, parce non. que je pense qu'en France, il y a de multiples et des milliers de jolis projets qui fonctionnent très bien. Donc, je pense, en plus, le mot projet, c'est un mot magique, c'est employé dans beaucoup de contextes. Dès qu'il y a des soucis, on entend, il faut faire des projets. Comme si le simple fait de faire un projet allait tout régler. Donc, le projet, il existe. Il a été expertisé, il a été évalué, il a été encouragé. On nous demande de le développer. Donnez-nous juste les moyens d'avancer et puis tout ira bien.
Alors ça, vous allez avoir des entrevues prochainement, hein. Vous le disiez, Martin Hirsch vient d'être nommé à la jeunesse parce que votre projet, bien sûr, il concerne le sport. Ça, c'est incontestable. On va pas l'enlever de son contexte initial, mais il concerne bien évidemment la jeunesse.
Je pense qu'effectivement, depuis quelques mois, notre réelle piste, notre réel espoir concerne la piste jeunesse, qui est à mon avis la plus systémique et la plus concernée par notre projet. Vu la philosophie et vu ce qu'on met en avant, plutôt que la filière uniquement et spécifiquement sportive. Il y a aussi de nombreuses fondations d'entreprises avec qui on est en contact. Quand on regarde leur site ou quand on regarde les valeurs qu'ils défendent, on est effectivement en copier-coller. Maintenant, au-delà des valeurs qu'on partage, le seul souci est de savoir comment on avance ensemble.
Alors, quelles sont les solutions, justement, d'aller tirer la sonnette d'alarme des entreprises, de frapper aux portes, hein, évidemment, hein, parce que vous ne frappez pas, vous, si ce n'est par l'imagination et l'engouement que vous mettez à porter le projet, mais vous d'aller frapper aux portes des politiques, de recourir au showbiz et d'aller voir d'éventuels parrains.
Je n'exclus aucune possibilité. Il y a une seule chose qu'on ne pourra pas me reprocher, c'est de ne pas avoir informé. Je pense que tout le monde est informé aujourd'hui, quel que soit le ministère. Et puis chaque ministère a répondu très favorablement, en tout cas très positivement. Donc on continue, les convictions sont là. Petite anecdote, et qui est plus qu'une anecdote, la demi-subvention qui concerne le demi-poste dont j'ai parlé tout à l'heure, politique de la ville financée par l'accès, on va la rendre, et je pense que dans l'histoire de la Ve République, c'est la première fois qu'une association rend une subvention. En général, c'est une institution qui réclame l'argent lorsqu'elle n'est pas utilisée par rapport aux missions demandées. Les missions ont été faites, telles que stipulées dans la convention. Par contre, l'argent n'a pas pu être utilisé puisqu'il nous manque la moitié. Donc là, on va rendre l'argent dans quelques jours, demain, après-demain. On va rendre l'argent en expliquant ce que l'on a fait, ce qui était attendu, mais on n'a pas pu utiliser l'argent.
Voilà ce qu'on a fait avec l'argent que vous ne nous avez pas donné.
Non, qu'ils nous ont donné, mais qu'on va rendre, puisque...
Oui, non, mais...
Ouais, c'est ça, oui. Ils nous manquent de moitié. Donc
enfin, voilà, qui n'ont pas voulu... Avec le reste de l'argent, vous n'avez pas voulu nous donner. Voilà ce qu'on a fait avec l'argent qu'on vous rend.
Effectivement, on est très reconnaissant par rapport au ministère de la Ville, qui a compris et qui nous encourage. Maintenant, c'est un petit peu bancal, parce qu'il nous manque la suite. On est affilié Ligue de l'enseignement, j'ai oublié de le préciser. Donc, ça donne aussi beaucoup de crédibilité au projet, qui a été reconnu modèle d'éducation populaire. Alors, c'est joli, à nouveau, comme expression. Et ce modèle-là provoque également de nombreuses manifestations d'intérêt et d'attente.
Alors, pour continuer à impulser le projet, on en reparlera bien sûr en temps utile, mais tout de même, parlons-en un peu. Vous envisagez, c'est plus que ça d'ailleurs, vous allez organiser une rencontre de roller football où, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est Paris va aller en banlieue.
C'est ça, ce sera la deuxième édition, ce sera logiquement au mois de mai, en fin d'année scolaire. Première édition l'année dernière, l'idée était de faire un petit peu l'inverse de ce qu'il fait d'ouvrir la capitale à la banlieue, c'est souvent ce qu'on entend. On a fait l'inverse, on a ouvert la banlieue à la capitale et on a fait venir des enfants de collégiens parisiens à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, pour une rencontre, on va dire, interacadémique de roller football où la notion de respect était centrale.
Alors cette rencontre, ces rencontres seront publiques, on pourra regarder ça, on pourra voir ça.
En tout cas, je ne manquerai pas de vous informer, ce sera courant mois de mai au collège Paul-Éluard de Bonneuil-sur-Marne. Et forcément, tout le monde sera le bienvenu, on fera en sorte...
Et on voit déjà ça d'un bon oeil, nous, hein.
Exactement.
Absolument. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Certainement beaucoup de choses, mais que vous souhaiteriez qu'il soit dit dans l'instant, là, pour justement continuer à hisser le projet et à lui faire sortir la tête de l'eau.
Peut-être parler du site internet qui...
Ah ben, on va en parler tout à l'heure. D'accord. N'hésitez pas. Il est complet, ce site internet, cela dit, il est...
On essaie d'être le plus réactif possible. On a un magnifique webmaster qui est très, très réactif et qui met au jour le jour, en avant les actualités. L'idée, c'est que ce site appartient à ceux qui font le projet. Quel que soit leur endroit en France, en dom-tom, quel que soit leur expérimentation scolaire ou extrascolaire, c'est leur site internet pour médiatiser et pour échanger.
Ça veut dire qu'il y a déjà un forum et qu'il y a déjà des enfants d'autres villes françaises qui ont du vent du projet et qui se disent qu'ils aimeraient bien faire partie de la fête, parce que j'imagine que chaque rencontre, c'est un peu une fête.
Bah c'est l'idée, je crois que de mémoire, Monsieur Lefebvre pourrait lire mieux que moi, de mémoire, les statuts de l'association ont été déposés comme jeu générateur de liens sociaux et non pas comme sport générateur de compétition, à titre d'exemple.
Oui, ça c'est très important. L'aspect compétitif a été rayé complètement.
Voilà, c'est rencontre, entraide, communication.
C'est un concept français, le roller football.
Alors, on peut terminer par une petite parenthèse, puisqu'il y a,
oh là,
il y a
très vite.
Roller soccer qui existe, qui est effectivement un sport, je fais très très vite,
oui.
Qui est du foot en roller, qui est une invention américaine et qui est affilié à la Fédération française de roller skating.
D'accord. Vous reviendrez parler de ça, mais donnez-nous les coordonnées de la fédération.
Donc www.rollerfootball.fr, tout attaché. Et vous avez un portail du site avec toutes les cartes de France, toutes les académies. En cliquant sur les cartes, on peut voir les lieux, les établissements scolaires qui ont commencé ou envisagé de développer le projet.
Et moi, j'ose le dire, pour vos prochaines rencontres, je vous dis merde. Vos prochaines rencontres avec les politiques, là, cette fois, hein. Ça va être autre chose, hein.
Merci beaucoup.
Là, il y aura pas d'arbitre, il y aura des référents et je sais pas ce que ça va donner, mais vous nous tenez au courant, évidemment.
L'espoir est là.